Not to say look what they did then, rather look what we do now.
La opción de vida es nuestra palabra.
A qualifier les conditions du génocide de point de détail, l'indignation a été immédiate.
Moi je fais ça pour que la vérité sorte, quoi. Qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent rien du tout là-dessus.
I have to continue talking about Tigray.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode de Point de détail. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un pays dont tout le monde connaît le nom, mais beaucoup moins l'histoire, l'Irak. Dans les années 80, le dictateur irakien Saddam Hussein ordonna un génocide contre les Kurdes de son pays. Ce génocide est aujourd'hui surnommé l'Anfal, en référence au nom de l'opération militaire qui le déclencha. L'opération Anfal tua près de 182 000 civils et réduisit en cendres 90% des villages kurdes du nord de l'Irak. Elle fut supervisée directement par le cousin de Saddam Hussein, Ali Hassan al-Majid, qui fut surnommé pour ça Ali le Chimique. Si l'Anfal se déroula entre février et septembre 88, on ne peut se contenter de s'intéresser à ces quelques mois pour comprendre le génocide. Car comme l'a montré la journaliste Béatrice Dilise, le génocide des Kurdes en Irak a commencé en réalité bien avant, et s'est étalé sur presque 20 ans. Cet épisode d'ailleurs se base en grande partie sur son travail, édité dans son livre « Génocide oublié, la voix brisée du peuple kurde », dont vous pouvez retrouver la référence sur le site du podcast. L'histoire du génocide kurde étant assez longue et complexe, j'ai préféré séparer cet épisode en deux parties distinctes. La première partie sera centrée sur pourquoi et comment a pu se mettre en place le génocide. Pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé en Irak, je dois d'abord vous parler un peu des Kurdes. Aujourd'hui, les Kurdes représentent une population d'environ 48 millions de personnes dans le monde. Elles habitent principalement sur le territoire du Kurdistan. Le Kurdistan n'est pas un pays, mais une région historique. Il se situe à cheval entre quatre pays actuels : la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Je vous ai mis une carte du Kurdistan sur le site pour que vous puissiez bien voir ce que ça représente. Malgré une présence millénaire dans cette région, les Kurdes n'ont jamais réussi à avoir de pays à elle. Pour comprendre pourquoi, il faut faire un petit crochet par ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale. Jusqu'en 1918, le Kurdistan faisait partie de l'Empire ottoman. Mais à la fin de la guerre, ce dernier, qui était du côté de la Triple Alliance, est vaincu. Son immense territoire est alors démantelé et réparti entre les vainqueurs. Le traité de Sèvres accorde à la France le contrôle du Liban et de la Syrie, tandis que l'Angleterre, elle, obtient de son côté la Transjordanie, la Palestine et l'Irak. Et surtout, le traité de Sèvres prévoyait pour la première fois la mise en place d'un territoire autonome pour les Kurdes. Mais c'était sans compter sur la Turquie. La Turquie qui était, elle, l'ancien centre de l'Empire ottoman, et refusa de se contenter du peu de territoire que lui laissait le traité de Sèvres. Elle décida donc de reprendre la guerre contre les puissances alliées. Une guerre d'indépendance qui se terminera 3 ans plus tard avec la conquête de nouveaux territoires par les Turcs, et par la signature d'un autre traité, le traité de Lausanne. Alors je sais que ça fait beaucoup de noms de traités en peu de temps, mais si je m'attarde dessus, c'est parce qu'il est important de bien comprendre ce qui s'est joué entre ces deux traités. Si les deux sont souvent confondus, ils sont pourtant bien différents. Car si le traité de Sèvres parlait d'établir un territoire autonome pour les Kurdes, ce n'est plus du tout le cas avec le traité de Lausanne. Celui-ci enterre définitivement l'idée d'un pays pour les Kurdes et éclate les frontières de ce dernier. C'est à cause du traité de Lausanne que le Kurdistan n'a finalement pas vu le jour, et que, depuis, les Kurdes mènent une lutte sans fin pour l'indépendance. Alors, petit point sémantique pour la suite de l'épisode. Si jusqu'à présent je vous ai parlé des Kurdes et du Kurdistan en général, À partir de maintenant, je vais me concentrer sur ce qui s'est passé en Irak. Quand je parlerai donc des Kurdes et du Kurdistan, il s'agira uniquement de la partie irakienne. Pour comprendre comment et pourquoi le génocide a pu se mettre en place, il est nécessaire de se pencher sur quatre grands facteurs qui ont joué un rôle central dans celui-ci. Le premier est lié au traité de Lausanne et à ce que je vous racontais juste avant, c'est la lutte des Kurdes pour leur indépendance. Car si les Kurdes n'ont pas été conviés ni au traité de Sèvres ni au traité de Lausanne, il ne faut pas croire qu'ils se laissèrent faire sans rien dire. Du temps de l'Empire ottoman, déjà, les Kurdes avaient mené de nombreuses révoltes pour tenter d'obtenir l'indépendance. Des révoltes qui, elles, continuèrent contre l'Empire britannique quand celui-ci prit le contrôle de l'Irak. Et enfin, contre évidemment ensuite le gouvernement irakien quand il s'émancipa de la tutelle britannique. C'est bien simple, les Kurdes ne cessèrent jamais de se rebeller. Il eut des révoltes presque tous les 10 ans à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Des révoltes à chaque fois réprimées dans le sang. Au début des années 60, le conflit entre les Kurdes et l'État irakien change d'ampleur. La rébellion grandit et les révoltes deviennent de véritables guerres. Des guerres qui vont durer pas moins de 15 ans, avant qu'un cessez-le-feu soit proclamé en 75. Des guerres qui vont faire des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Des guerres qui seront menées par des combattants et des combattantes que l'on désigne sous un nom que vous avez peut-être déjà entendu, les Peshmerga. Le terme Peshmerga signifie en kurde « ceux qui vont au devant de la mort ». Les Peshmerga sont divisés en deux grands partis politiques, le PDK pour le Parti démocratique du Kurdistan et l'UPK pour l'Union patriotique du Kurdistan. Les relations entre ces deux partis sont trop complexes pour que je puisse les développer ici, mais il est important de préciser qu'ils furent autant la cible l'un que l'autre du gouvernement irakien. Ce qui m'amène au deuxième grand facteur du génocide, Saddam Hussein. Ce dernier étant le commanditaire de l'Anfal, je me dois de vous détailler un peu comment il a pu arriver au pouvoir. Si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'avec le traité de Sèvres, le Royaume-Uni avait pris le contrôle de l'Irak. Eh bien, cette mainmise continua jusqu'en 1932, où l'Irak devint une monarchie officiellement indépendante. En réalité, le royaume irakien resta sous l'affluence des Britanniques jusqu'en 1958, où celle-ci prit fin avec la révolution irakienne du 14 juillet. Eh oui, le 14 juillet n'est pas synonyme de révolution qu'en France. En Irak aussi, le 14 juillet est la date où la monarchie était renversée. Et c'est aussi le jour de leur fête nationale. Contrairement à la France, cependant, la monarchie n'a pas pris fin avec un soulèvement populaire, mais par un coup d'état militaire mené par le général Qassem. Qassem était proche du parti communiste irakien, alors l'un des plus grands partis communistes au monde. Il proclama la République d'Irak et mit en place des politiques progressives ambitieuses. Il instaura une aide aux plus démunis, fit passer une réforme agraire ainsi que des réformes pour améliorer l'égalité femmes-hommes. Et surtout, Qassem entreprit une reconnaissance des Kurdes et l'instauration d'une autonomie pour leur région. Malheureusement, vu que je vous ai dit que la guerre entre les Kurdes et Bagdad dura jusqu'en 75, vous devez vous douter que les choses ont mal tourné quelque part. Et effectivement, comme souvent, ce gouvernement progressiste ne plut pas à tout le monde. Et à peine 5 ans plus tard, Qassem fut renversé et exécuté par le Parti Basse. Le Parti Basse, c'est un parti qui à l'origine se revendiquait du socialisme et du panarabisme, mais qui dériva largement de cette idéologie au cours de son histoire. Le Parti Basse est aussi présent en Syrie, où il prit aussi le pouvoir par un coup d'état un mois seulement après celui en Irak. Dès son arrivée à la tête de l'État irakien, le Parti Basse entreprit une politique d'arabisation du pays et reprit la guerre contre les Kurdes. C'est avec le Parti Basse qu'arrive sur le devant de la scène Saddam Hussein. Saddam Hussein qui prendra la tête du pays quelques années plus tard grâce à un autre coup d'état en 1968. Il règnera sur l'Irak en dictateur jusqu'en 2003, menant une politique de répression impitoyable envers toutes les minorités ethniques du pays. À ce stade, vous vous posez peut-être la même question que moi. Pourquoi Saddam Hussein refusait l'indépendance des Kurdes? Pourquoi préférer faire la guerre pendant des années et commettre un génocide plutôt que tout simplement laisser les Kurdes devenir indépendants? Si la réponse est forcément plus compliquée que le résumé que je vais vous en faire, il y a deux raisons majeures qui poussèrent Bagdad à vouloir continuer de contrôler le Kurdistan. La première est la peur d'un éclatement. En plus des Kurdes, le pays est divisé entre les musulmans sunnites et chiites. Pour Saddam Hussein, l'indépendance des Kurdes était une menace, qui aurait pu créer un précédent et conduire au démantèlement du pays. La deuxième raison, elle, est aussi le troisième facteur du génocide kurde. Il s'agit d'un élément auquel on pense automatiquement lorsqu'on parle de l'Irak. Le pétrole. Et ce n'est pas pour rien. Les ressources de l'Irak sont immenses et font du pays le cinquième producteur mondial de pétrole. Le pétrole est indissociable de l'économie irakienne. En 2024, il représentait encore 96% des revenus de l'État. Les premiers gisements de pétrole en Irak ont été découverts en 1908. Ces gisements expliquent pour une grande part pourquoi l'Angleterre a voulu prendre le contrôle de la région. Et aussi pourquoi le gouvernement irakien refuse l'indépendance des Kurdes. Car l'un des plus gros gisements de pétrole de l'Irak se trouve proche de la ville de Kirkuk, au Kurdistan. Ainsi, si Saddam Hussein est prêt à tout pour pouvoir continuer à contrôler le Kurdistan, c'est tout simplement parce que celui-ci possède une grosse partie des réserves de pétrole indispensables à l'économie irakienne. Enfin, pour que notre tableau soit complet, il nous manque l'influence d'un dernier facteur, l'Iran. L'Iran est le pays avec lequel l'Irak a la plus grande frontière commune. Une frontière qui fut une source de conflits pendant de nombreuses années. L'Iran a toujours été en compétition avec son voisin pour avoir le plus d'influence dans la région. Une compétition qui remonte au temps de l'Empire Ottoman et de l'Empire Perse. C'est cette compétition d'influence qui poussa l'Iran à aider les Kurdes irakiens dans leur combat. Elle leur fournit un soutien matériel et financier. Elle servit aussi de base arrière lors des différentes guerres. Il ne faut cependant pas être dupe. Le soutien de l'Iran était uniquement motivé par l'affaiblissement de l'Irak. Car si d'un côté elle soutenait le séparatisme des Kurdes irakiens, de l'autre elle n'avait aucun mal à réprimer le séparatisme des Kurdes iraniens. Le soutien de l'Iran sera énormément instrumentalisé par Bagdad. Saddam Hussein accusera tous ses ennemis d'être à la solde de l'Iran, afin de justifier des répressions sanglantes. L'animosité entre l'Iran et l'Irak est primordiale pour comprendre l'Anfal. Car celui-ci aura lieu pendant la guerre que se mèneront les deux pays, entre 1980 et 1988. Nous avons donc là les quatre facteurs principaux pour comprendre le génocide. Le combat pour l'indépendance des Kurdes, la dictature meurtrière de Saddam Hussein, l'enjeu du pétrole et la rivalité avec le voisin iranien. Comme je vous le disais au début de l'épisode, la journaliste Béatrice Diliz considère que le génocide kurde ne se limite pas à l'année 88. Selon elle, il se serait étalé sur une vingtaine d'années. Je vais donc vous parler rapidement de ce qui s'est passé pour les Kurdes pendant ces 20 années, en remontant à l'année 68. Car si en réalité tous les gouvernements irakiens ont combattu les Kurdes, l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein en 68 marque un tournant dans la répression. Saddam Hussein ne se contenta plus d'étouffer les révoltes et mit en place un véritable nettoyage ethnique contre les Kurdes. Pour lui, toute personne qui n'était pas arabe et sunnite n'était pas irakienne, et donc était un ennemi de la nation. Bien que cette politique d'arabisation touchât principalement les Kurdes, d'autres minorités en furent victimes. Les premiers massacres commencèrent dès 69. Deux d'entre eux ont particulièrement marqué les esprits. Le premier est celui de la cave de Dakhan. Lors d'un raid de l'armée contre un village kurde, des villageoises se réfugièrent dans une cave à proximité. Malheureusement, les militaires trouvèrent leur cachette et décidèrent de mettre le feu à la cave. Une centaine de personnes périrent dans l'incendie, principalement des femmes et des enfants. Le deuxième est celui du village de Soria. Toutes les habitantes et habitants de ce petit village d'une quarantaine de personnes furent exécutées par l'armée irakienne. Mais la répression de Saddam Hussein ne se limita pas à des massacres isolés. Il mena deux campagnes d'extermination de grande échelle. La première contre les Kurdes Feli et la deuxième contre les habitantes et habitantes de Barzan. Contrairement à une majorité de Kurdes qui sont de confession sunnite, les Kurdes Feli sont eux chiites, comme le régime iranien. Saddam Hussein utilisa ce prétexte pour affirmer que les Feli étaient des agents travaillant pour l'Iran, et donc des ennemis de la nation. En conséquence, ils furent déchus de leur nationalité et se virent confisquer tous leurs biens. Ils furent ensuite déplacés de force en Iran. Environ 500 000 Kurdes Feli furent ainsi déportés. 15 000 autres disparurent et 25 000 autres furent exécutés. L'autre grande campagne de destruction fut dirigée contre la région de Barzan, dans le nord du pays. En 1975, le gouvernement décida de déporter les Kurdes de Barzan vers le sud du pays. Plus de 600 villages furent brûlés pour obliger les gens à se déplacer et être ainsi sûrs qu'ils n'auraient plus d'endroit où revenir. Entre 200 000 et 300 000 Kurdes de Barzan furent déportés dans des régions désertiques, où ils furent parqués dans des tentes sous surveillance militaire. De nombreuses personnes y périrent à cause des conditions de vie déplorables. Quelques années plus tard, en 83, la répression reprit contre Barzan. L'armée rafla 8000 hommes de la région et les enterra vivants dans le désert. Des hommes qui étaient âgés entre 10 et 85 ans. Le massacre des 8000 de Barzan est considéré par beaucoup comme le prélude de l'opération Omphale. Celle-ci commencera en effet à peine 5 ans plus tard. Voilà, c'est la fin de cette première partie sur comment et pourquoi a pu se mettre en place le génocide kurde. La deuxième partie, elle, sera consacrée au déroulement de l'opération Omphale et à la chute de Saddam Hussein. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager s'il vous a plu.